le journal donc est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump, une nouvelle fois touché, et cette fois par un coup très dur dans le cadre de l'enquête russe du procureur spécial Robert Mueller. Son ancien directeur de campagne Paul Manafort vient tout juste de plaider coupable et on apprend à l'instant qu'il accepte de coopérer à l'enquête. On rejoint dans un instant Loïc Loury en direct de New York. Aux Philippines, l'angoisse des populations côtières à l'approche du super typhon Mangkhut. 4 millions de personnes sont menacées. Reportage à suivre dans les rues de Manille. L'enquête de cette édition dans la page politique du journal sur l'irrésistible ascension d'une poignée de jeunes loups de la politique réunis il y a quelques mois sous le label des jeunes avec Macron. Ascension irrésistible mais très calculée, nous dira Sylvain Tronchet. Et puis en France et partout en Europe, la mobilisation des autorités sanitaires pour éviter à tout prix une épizootie de la peste porcine africaine potentiellement très dangereuse pour les porcs et les sangliers. Deux cas récents avérés en Belgique inquiètent l'Union européenne, nous dira Pierre Benazi. Conspiration contre les États-Unis et entrave à la justice. C'est sur ces deux chefs d'accusation gravissimes que vient de négocier Paul Manafort. C'était il y a quelques minutes. C'est un coup très dur pour Donald Trump, dont l'ancien directeur de campagne vient donc de plaider coupable. Paul Manafort bénéficiera de cet accord avec le procureur spécial Robert Mueller en échange de cette reconnaissance de culpabilité. Étape très importante dans l'enquête sur une éventuelle ingérence russe et une possible collusion avec le Parti républicain pendant la campagne électorale. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à New York. Étape très importante dans l'enquête et vrai rebondissement également.
Ah oui, puisque Paul Manafort s'employait de toutes ses forces depuis des mois pour contester les accusations, il n'ira finalement pas à ce second procès qui devait débuter à Washington. Il faut dire qu'il y a moins d'un mois, il était déjà face à la justice, jugé coupable de 8 chefs d'accusation, notamment fraude bancaire et fiscale. Cette fois, il devait faire face à 7 nouveaux motifs d'inculpation, mais seuls 2 ont été retenus, vous le disiez, en vertu de l'accord signé aujourd'hui avec le procureur spécial chargé de l'enquête russe. Le cas de Manafort, pourtant, n'est pas lié à une éventuelle collusion de la campagne de Trump avec Moscou. On lui reproche ses activités de lobbyiste très lucratives en Ukraine avant 2014. Mais pour le procureur, accabler ainsi l'ex-directeur de campagne, c'est bien sûr faire pression sur lui, sur un proche du président et donc sur le président lui-même.
Voilà, le président qui n'a pas tardé à réagir. En moins de 5 minutes, la Maison-Blanche a indiqué que ce plaidé coupable n'avait rien à voir avec Trump. N'empêche, Loïc, c'est un coup très dur.
Ah oui, c'est une victoire majeure pour Robert Mueller. Son action d'abord est largement légitimée, surtout quand on sait que Donald Trump l'accuse très régulièrement de mener une chasse aux sorcières. Le milliardaire ensuite, c'est un peu le sens de ce que vous disiez, semble très isolé. Ils sont 5 impliqués dans sa campagne à avoir déjà plaidé coupable ces derniers mois et ce ne sont pas les seuls. On se souvient par ailleurs de cette séquence désastreuse pour le président il y a moins d'un mois. En parallèle du procès Manafort, on apprenait que l'avocat de la Maison-Blanche avait passé des heures et des heures à collaborer lui aussi avec le procureur Mueller, toujours dans le cadre de cette fameuse enquête russe. Mais Manafort, donc, c'est encore plus grave. C'est un homme bien, selon le président, un proche qui sait a priori beaucoup de choses sur lui.
Merci Loïc Loury, en direct de New York pour France Culture. Aux États-Unis toujours, l'ouragan Florence est arrivé sur la côte Est, et notamment dans l'état de la Caroline du Nord, qui est littéralement en train d'être ravagé. D'après la dernière déclaration du gouverneur de l'état, de nombreux habitants seraient coincés chez eux et la menace est majeure pour au moins 24 à 36 heures sur les régions concernées, notamment en raison des très importants risques d'inondation. Aux Philippines, c'est un super typhon qui menace les habitants des zones côtières du nord de l'archipel. 4 millions de personnes sont directement concernées. Les vents y seront extrêmement violents et souffleront possibilement jusqu'à 220 km/h selon les services météo de la région. Mangkhut, avec ses 900 km d'ampleur au-dessus du Pacifique, est le plus violent typhon attendu aux Philippines depuis le début de l'année. À Manille, la correspondance de Marianne Dardar.
Les autorités philippines sont en alerte maximale et ont commencé depuis plusieurs jours à évacuer les habitants de la côte nord-est de l'archipel. Selon la Croix-Rouge, le cyclone pourrait affecter 7 millions de personnes. L'agence de météo philippine a émis des avis de tempête dans 25 provinces où les pluies diluviennes renforcées par la mousson pourraient provoquer de fortes inondations et des glissements de terrain. Sur le littoral est annoncée une onde de tempête jusqu'à 6 mètres de haut. L'onde de tempête désigne l'élévation soudaine du niveau de la mer provoquée par les vents du typhon poussant en surface. Pour autant, Mangkhut, le nom de cette tempête tropicale, n'est pas encore considéré comme un super typhon par les Philippines et devrait toucher terre dans la nuit. Sa progression se serait légèrement accélérée.
Au Brésil, un hommage un peu plus tôt dans la journée à Marielle Franco, cette femme politique assassinée il y a 6 mois dans d'obscures circonstances. Ce crime, visiblement très bien préparé, est pour l'instant impuni. Mais si la personnalité de Marielle Franco a disparu, son message sur le nécessaire engagement des femmes noires du Brésil en politique et son héritage pour les générations futures, eux, sont plus vivants que jamais. Reportage à Rio, Dan Vigna.
Amnesty International a installé un grand panneau devant la baie de Rio avec cette phrase « Toujours pas de réponse ». L'enquête de police a déterminé jusqu'à présent que l'exécution de Marielle Franco avait été préparée avec soin et que des agents de l'État ont aidé les criminels. Les caméras du lieu du crime étaient débranchées et les armes utilisées appartenaient aux forces de police. Pour la directrice d'Amnesty International au Brésil, il faut aujourd'hui redoubler la pression face au risque réel d'impunité.
Pour nous, Amnesty International, c'est inadmissible que 6 mois après la mort de Marielle, nous n'ayons toujours pas de réponse des autorités. C'est important que l'enquête de police soit gardée secrète, car les informations sont toujours très délicates, mais cela ne veut pas dire silence. Après 6 mois, c'est inadmissible et nous n'accepterons jamais l'impunité comme réponse à ce crime.
La société Carioca a déjà exigé que les projets de loi de Marielle soient approuvés par la ville de Rio. Mais son héritage se voit aussi dans ce nombre record de candidates jeunes et noires pour cette élection.
C'est vrai que la mort de Marielle a provoqué un phénomène qui reflète ce que Marielle voulait quand elle disait « on ne me fera pas taire ». Elle n'est plus physiquement avec nous, mais d'autres jeunes femmes noires assument la responsabilité dans la politique de continuer à porter cette voix.
L'exigence de la vérité sur ce crime est justement répétée aujourd'hui par les candidats au poste de députés fédéraux et ceux de l'État de Rio.
Reportage d'Anne Vigna au Brésil pour France Culture. Une réunion cet après-midi au ministère français de l'Agriculture sur les risques de propagation de la peste porcine africaine. Pour éviter toute épizootie d'ampleur qui aurait des conséquences très dures sur les sangliers et les cheptels de porc, la France tente de se préparer. D'autant que la menace, entrevue depuis déjà plusieurs semaines, semble se préciser. Tout récemment, 2 cadavres de sangliers contaminés ont été retrouvés en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française. En direct de Bruxelles, on retrouve Pierre Bénazé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant permanent de France Culture à Bruxelles. Pierre, l'inquiétude concernant la peste porcine africaine est l'affaire d'une bonne partie de l'Union européenne.
Effectivement, alors il y a évidemment d'abord l'inquiétude française, puisque le massif forestier ardennais où ont été retrouvés les 2 sangliers morts est quasiment continu jusqu'en France. Inquiétude aussi chez les voisins néerlandais et bien sûr pour l'Union européenne, qui peut craindre aussi de voir les pays tiers refuser d'importer du porc venant d'Europe, l'Europe plus grand exportateur mondial de viande porcine. Selon certains, la contamination des 2 sangliers retrouvés morts lundi par un garde forestier en Lorraine belge pourrait très bien être due à des restes alimentaires jetés par des automobilistes. La proximité de l'autoroute qui traverse la province de Luxembourg belge en provenance d'Allemagne pourrait être un vecteur de contamination, même si le plus proche foyer de peste porcine connu jusqu'ici se situe à 500 km en République tchèque. En attendant, les autorités responsables ont décrété des mesures de précaution, une interdiction de chasser jusqu'au 15 octobre dans une zone de 63 000 hectares, l'obligation pour les promeneurs de ne plus quitter les sentiers balisés et un dépistage mené dans 67 élevages de la province. Dans le même temps, l'envoi pour ce week-end d'une équipe d'experts vétérinaires spécialistes de la fièvre porcine africaine a été demandé à la Commission européenne. Une rencontre aura lieu lundi entre le ministère de l'Agriculture et le commissaire responsable, alors que le commissaire à l'Agriculture était justement en visite hier en Roumanie, avant l'annonce de la Belgique, une visite au cours de laquelle il avait annoncé le déblocage d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour la recherche sur la fièvre porcine africaine.
Merci Pierre Bénazé, en direct du bureau de Radio France à Bruxelles. 2 morts aujourd'hui à Gaza dans des heurts. Les 2 victimes sont des manifestants palestiniens, dont un adolescent de 14 ans. Ils ont été atteints par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations le long de la frontière avec Israël. En France, le plus haut responsable du parti présidentiel qui accuse indirectement des sénateurs d'être des menaces pour la République. Un président de la République qui tente de recadrer le président du Sénat. Une opposition qui crie au scandale et qui, en retour, est accusée de politiser chacune de ses interventions. Nous sommes manifestement toujours dans l'affaire Benalla. Et les suites directes de l'audition de l'ancien chef de la sécurité de l'Élysée devant la commission d'enquête du Sénat n'en finissent pas de pourrir les relations entre l'exécutif et le Parlement. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir Benoît.
Dans cette situation troublée, les postures des uns et des autres rappellent exactement assez précisément ce qu'on a connu au moment du déclenchement de l'affaire Benalla.
Eh bien oui, souvenez-vous, cet été, l'affaire éclate au grand jour, quasi silence de l'Élysée, et très vite, les macronistes lancent leurs éléments de langage. L'opposition essaye d'en faire une affaire d'État, de faire obstruction au travail parlementaire, ou encore, ce n'est pas l'opposition, mais la justice qui juge. Jusqu'au Premier ministre, votre espoir est d'atteindre le chef de l'État, avait lancé Édouard Philippe en réponse aux mentions de censure de la gauche et de la droite. Scandale dans les rangs de l'opposition. Et cette semaine, c'est la même méthode victimaire qui est appliquée à l'encontre des sénateurs. Pas un mot de la présidence. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui parle d'une instrumentalisation politique. Ou dernière salve en date ce matin de Christophe Castaner, comme vous l'avez dit, si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République, a dit le ministre, qui, on le rappelle, s'occupe des relations avec le Parlement. Et que dit le reste du Parlement, justement? Sans surprise que l'exécutif protège Alexandre Benalla, dixit le sénateur LR Bruno Retailleau, que l'exécutif fait une crise d'autorité, ça c'est signé Jean-Luc Mélenchon. Finalité de ce petit jeu, c'est difficile à dire. Est-ce de l'arrogance de la part d'Emmanuel Macron? Il y en a certainement un peu. Est-ce une stratégie de défense ou d'évitement? C'est très probable. Dénoncer la partialité de ses adversaires au moment où ces derniers se préparent à questionner Alexandre Benalla. On est dans une opération pure de communication politique, dénonçait il y a quelques jours le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Oui, mais de la part de la majorité comme l'opposition.
Merci Adrien Toffolet du service politique de France Culture. Le procès Méric, 5 ans après la mort du jeune militant, avec un verdict imminent à la cour d'assises de Paris. Il sera prononcé dans la soirée. L'avocat général a requis hier une peine de 12 ans de réclusion criminelle à l'encontre du principal accusé, Esteban Morillo. Direction maintenant la fête de l'humanité à la Courneuve, où une place Maurice Audin a été inaugurée cet après-midi. Façon pour le Parti communiste et pour l'organe de presse dont il est le plus proche, l'Humanité, de rappeler que le combat pour la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la disparition du jeune militant était aussi leur combat. Sur place, le reportage de Sophie Delpont.
Près de 200 personnes en présence de Josette Audin, la veuve de Maurice Audin. C'est Patrick Le Yarrick, le directeur du journal L'Humanité, qui prend la parole en premier pour rappeler l'implication de l'UMA et des communistes pour obtenir cette reconnaissance historique.
Ce qui s'est passé hier est le fruit d'un très long combat mémoriel. 61 années, une vie.
Il remercie Cédric Villani, le député La République En Marche, un peu chahuté à son arrivée et finalement très applaudi.
Hier, quand j'ai vu la une de l'Humanité, j'ai pleuré.
Pierre, 70 ans, ancien universitaire et militant communiste, très ému.
Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans mon combat de militant, parce qu'il se trouve que j'ai milité aussi. C'est une reconnaissance enfin, de ces combats que beaucoup ont menés et que mènent encore les communistes aujourd'hui.
C'est un moment de mémoire qui dépasse très largement le Parti communiste, souligne Mélissa. Elle est insoumise.
Je suis d'origine algérienne et en plus, j'habitais pas très loin de la place Audin. Et c'est vrai que c'est assez important parce que pendant très longtemps, on ne savait pas ce qui lui était arrivé. Enfin, on le savait, mais on n'en avait aucune preuve. Et puis symboliquement, c'est quelque chose de très fort. Je ne sais pas si c'est un calcul politicien de la part de Macron, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est symboliquement très fort. Aussi bien pour les Français qui étaient contre la guerre d'Algérie, mais aussi pour les Algériens, parce que c'est quand même quelqu'un qui était du côté des Algériens, qui était opprimé lors de la guerre, et je pense que c'est très important.
Elle espère maintenant connaître la vérité sur l'ensemble des disparus pendant la guerre d'Algérie.
À la fête de l'Humanité, Sophie Delpont. Le chantier de la refonte de la redevance télé est officiellement lancé. Françoise Nyssen a exprimé tout à l'heure le souhait que tous les foyers potentiellement puissent financer l'audiovisuel public en s'acquittant de cette contribution qu'ils possèdent, une télévision ou non. Cette année, la contribution de 139 euros doit rapporter 3,8 milliards d'euros. Et puis Christophe Castaner a annoncé de son côté le lancement d'une réflexion sur la réforme de l'impôt sur les successions pour lutter contre les inégalités de naissance. Le plan vélo a été dévoilé aujourd'hui à Angers pour favoriser les déplacements verts. Un plan qui comprend pour la première fois un financement dédié aux utilisateurs de vélo avec notamment un forfait mobilité pour les salariés. C'est une avancée incontestable, mais selon le point de vue adopté, ce plan peut aussi être considéré comme une façon relativement timide de rattraper un retard considérable. Aux Pays-Bas, par exemple, quand un plan vélo est lancé, comme ça a été le cas récemment, c'est pour donner aux très nombreux cyclistes des infrastructures toujours plus fonctionnelles. Illustration avec ce reportage à Utrecht, aux Pays-Bas, d'Antoine Moutot.
Comme tous les jours, Marianne, 25 ans, a beaucoup de mal à trouver une place pour son vélo dans le parking de la gare centrale d'Utrecht.
Presque tout le monde a un vélo ici, donc c'est vite plein.
Nous nous trouvons pourtant ici dans ce qui doit bientôt être le plus grand parking à vélo au monde. Un peu plus loin, Mareike, 50 ans, attend comme une vingtaine d'autres cyclistes que le feu passe au vert.
J'habite ici depuis 25 ans et il y a beaucoup plus de circulation qu'avant.
Récemment, le gouvernement a annoncé investir 250 millions d'euros pour construire davantage d'infrastructures cyclables. Il veut aussi convaincre par le dialogue toutes les entreprises du pays à enfin payer à leurs employés 19 centimes d'euros par kilomètre effectué à vélo pour se rendre au travail, une mesure qui a encore du mal à s'appliquer. Mais pour Wim Bot, de l'Organisation néerlandaise de défense des cyclistes, ce n'est pas assez.
Malheureusement, par rapport à tout ce qui devrait être fait, c'est vraiment trop peu d'argent. En fait, c'est tout l'aménagement des villes qu'il faut rediscuter.
Quoi qu'il en soit, le gouvernement espère rapidement faire passer 200 000 automobilistes supplémentaires au vélo, car avec une des plus fortes densités de population d'Europe, sur les routes et autoroutes aussi, la situation devient infernale.
18h16 sur France Culture, la suite du journal et un retour à la politique en France avec l'enquête de cette édition sur les stratégies modernes de conquête du pouvoir. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Benoît.
Du service investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur cette bande de jeunes députés qui ont gravi les marches du pouvoir à une vitesse impressionnante il y a quelques mois dans le sillage d'Emmanuel Macron, ceux qui s'étaient regroupés sous le label des jeunes avec Macron. Et leur histoire, Sylvain, c'est celle d'un gros coup politique à base de talent, mais aussi de bluffs, de vieilles combines et de grosses ficelles.
Oui, à commencer par la façon dont il débarque dans le paysage politique. Emmanuel Macron n'est encore qu'un jeune ministre de l'économie et soudainement, un collectif de jeunes se crée spontanément en juin 2015 pour le soutenir et ses créateurs le jurent. Ils n'ont aucun contact avec leur idole. Florian Humez l'affirme en direct sur ITV.
Il nous soutient de ce qu'on a pu voir dans les médias en nous suivant avec un regard bienveillant, mais on n'a aucun lien avec son cabinet ni avec lui directement.
En réalité, les quatre créateurs des Jeunes avec Macron sont des copains de fac de Stéphane Séjourné, le conseiller politique d'Emmanuel Macron. Ils militaient ensemble chez les Jeunes Socialistes et il les tient informés de la stratégie du ministre. C'est ce qui ressort de dizaines de messages issus des Macron Leaks, cette fuite de mail de l'équipe de campagne de Macron. Écoutez par exemple cet échange que nous avons fait lire entre le conseiller ministériel et Pierre Persson, l'un des créateurs du collectif, 6 jours après son lancement.
Pour info, 4 tweets vont partir du compte du ministre.
Parfait, merci. On va pouvoir riposter. Ça se déchaîne depuis 15 heures. Bise.
Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il est informé, Sylvain ?
Alors, probablement pas au tout début, mais 3 mois après le lancement du collectif, dans un mail, il demande si ces jeunes dont on parle dans la presse sont bien les colocs de Steph, en clair, les anciens colocataires de Stéphane Séjourné. Les colocs, qui vont donc se révéler très utiles dans les mois qui suivent, comme l'explique ce document interne des Jeunes avec Macron de juillet 2016.
Emmanuel Macron est dans un trou d'air. Sa courbe de popularité est en baisse. Sa position ambiguë dans le gouvernement l'empêche de prendre position sur la défense et le terrorisme. Tant qu'il est au gouvernement, il ne peut pas communiquer dans les médias. Avec l'aval du ministre, les jeunes avec Macron, eux, ont une certaine marge de manœuvre pour communiquer.
Et ces jeunes avec Macron commencent donc à squatter les plateaux télé en expliquant bien qu'ils ne sont pas des professionnels de la politique, alors qu'ils sont en réalité de redoutables militants formés à l'école des jeunes socialistes, où ils ont notamment appris à monter des collectifs en apparence indépendants. Leur ancien camarade des MJS de Poitiers, Jules Aimé, m'a expliqué la recette.
C'est pas si compliqué que ça, hein. C'est incite une pétition et puis c'est parti. Une pétition, ça permet de produire 1000 noms. Une liste qui devient un site internet, que va se faire un plaisir de reprendre la presse si on est dans un petit creux médiatique, ou alors si on est justement à un moment un peu de tension autour d'une personne, et ben ça permet d'appuyer cette tension médiatique pour montrer que cette personne se solidifie politiquement avec un mouvement. Donc oui, nous à Poitiers, on existait dans le mouvement associatif, dans le mouvement syndical et dans le mouvement politique. Les jeunes avec quelqu'un, les jeunes contre quelque chose, les jeunes pour quelque chose, alors que derrière, finalement, c'était toujours le noyau dur du MJS qui était à la tête de toutes ces structures-là.
Et ce collectif va avoir un rôle essentiel ensuite, pendant la campagne. Ils vont notamment sauver la Grande Marche, l'opération de porte-à-porte, en fournissant la moitié des marcheurs quand le mouvement En Marche avait de la peine à recruter des volontaires. Ils vont assurer l'ambiance dans les meetings, qui sonnaient le creux au début, et ils seront récompensés. 4 anciens JAM, jeunes avec Macron, sont aujourd'hui députés, d'autres sont conseillers. À moins de 30 ans, ils ont réussi le coup de leur vie.
Merci Sylvain Tranchet. Enquête à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. Un temps ensoleillé demain sur la majeure partie du pays et température toujours très douce, de 19 à 23 au nord, de 24 à 29 degrés, plus au sud de la Loire.